Au Capi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
La RDC est en plein processus de décentralisation. Ce processus, disons la décentralisation, est un mode de gouvernance qui consiste à donner une certaine autonomie aux provinces afin qu'elles ne dépendent plus du pouvoir ou ne dépendent pas totalement du pouvoir central. Alors quelle est donc l'importance de ce processus et quels sont les défis à relever pour réussir la décentralisation? On en parle avec notre invité, Maître Gilbert Kiatingé Kakoulé, spécialiste en décentralisation. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à ce thème? Le standard est ouvert. Composez le 081-890-63-94 pour vous inscrire et nous allons vous rappeler pour participer à cette émission, pour poser vos questions évidemment à l'invité du jour, Maître Gilbert Kiatingé. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de la décentralisation qui est déjà, dont le processus est déjà en marche. Alors, pouvez-vous nous en dire plus?
Bien, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez ce matin. Je voudrais en profiter pour saluer tous les auditeurs de la radio au Capi, et je sais qu'ils sont très nombreux. Et ce n'est pas la première fois que je suis devant ce micro pour parler de la décentralisation. Mmh. J'ai toujours été invité dans d'autres émissions comme Dialogue entre Congolais, lorsqu'il y a des sujets brûlants sur des
sujets d'actualité.
Des sujets d'actualité.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, je suis très honoré par votre invitation. Je vous en remercie. Et donc, parler de la décentralisation, c'est en fait parler d'une réforme qui aujourd'hui préoccupe le commun des Congolais, dans la sphère politique. C'est chaque jour que branchés aux médias,
nous parlons de la décentralisation,
comment évolue l'élection des gouverneurs.
Nous avons aujourd'hui 21 nouvelles provinces.
Oui, et puis la loi, la fameuse loi sur la répartition des sièges au niveau des entités territoriales décentralisées. Je crois que c'est vraiment une loi très importante, parce qu'en fait, la décentralisation n'existe effectivement, au sens technique du mot, qu'au niveau des entités territoriales décentralisées.
D'accord, commençons par le commencement. D'abord, c'est quoi la décentralisation?
Oui, la décentralisation, c'est tout simplement un mode de gestion des affaires publiques, du pouvoir public, qui consiste à transférer des compétences ou des attributions à des entités autonomes qui sont dotées de personnalités juridiques. Tout simplement.
C'est un transfert de pouvoir, vous avez dit.
On transfère les compétences.
Les compétences. Quel genre de compétences?
Et lorsqu'il s'agit des entités, on parle des attributions. Et il y a les affaires locales, les affaires typiquement locales, qui doivent être gérées par les organes locaux. Il y a des petites choses aujourd'hui, par exemple, pour construire un pont sur un ruisseau, dans une commune. On n'a pas besoin du pouvoir central. Il ne faut pas commencer à critiquer le pouvoir central parce que on n'a pas construit une école de 4 salles, on n'a pas jeté un petit pont, on n'a pas organisé un parking, par exemple, public au niveau d'une commune ou d'une ville.
Oui.
Et donc, le pouvoir central, lui seul, ne peut pas tout faire. Le pays est tellement vaste, il faut donc déférer certaines matières. Certains services publics de base doivent être organisés au niveau local. C'est pour cela que, dans notre constitution, nous avons opté pour cette forme de gestion comme pouvant nous amener, pouvant impulser le développement de notre pays. Parce que quand vous regardez les pays qui sont développés aujourd'hui, la France notamment, le Canada et tous les autres pays, eh bien, le développement ne part pas du sommet, mais il part de la base. C'est-à-dire, si vous arrivez à développer une ville, et chaque ville, chaque commune dans
se développe
le pays,
de manière autonome.
Oui, de manière autonome. Mm-hmm. C'est ce développement-là qui va impulser le développement général du pays et qui va évidemment nous aider à refonder l'État. Aujourd'hui, nous avons besoin de refonder notre État. Nous avons tenté plusieurs systèmes, nous avons tenté plusieurs solutions, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il faut essayer la recette de la décentralisation. Mmh. Mais alors une décentralisation effective. Et elle suppose que nous avons des hommes qui comprennent l'enjeu. si nous parlons de la décentralisation,
parlez-nous alors quels sont les avantages qu'offre la décentralisation?
Oh, il y a beaucoup d'avantages. Mm-hmm. Je vous assure, lorsque nous allons passer vraiment à cette phase-là de la décentralisation effective, c'est-à-dire après les élections locales, mm-hmm. eh bien, vous allez voir que le peuple congolais va se sentir beaucoup plus concerné par les affaires de l'État. Parce que il y aura rapprochement d'abord entre les gouvernants et les gouvernés. Lorsque vous avez élu, par exemple, un conseiller au niveau de votre commune, mmh. généralement un quartier hein, qui donne un conseiller communal, mais vous suivez la marche de ce conseiller, comment il vous défend au niveau de la commune.
Mmh.
Vous suivez, vous savez que tel bourgmestre de telle commune a été élu par nos conseillers de notre petite commune ici. Nous les avons élus et eux aussi ont élu le bourgmestre. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre commune et comme il est appelé à faire fonctionner une sorte de gouvernement, parce que c'est en fait l'apprentissage de la démocratie à la base. C'est en fait le pouvoir central en miniature. Parce que tout le mécanisme démocratique qui se passe au niveau du pouvoir central sont organisés au niveau de la décentralisation.
Aujourd'hui, nous avons même des gouvernements au niveau des provinces.
Au niveau des communes, il y en aura.
Au niveau des provinces, c'est déjà le processus de décentralisation.
Vous voyez que les gens sont beaucoup plus proches des gouverneurs de province, dans leur province, que de la primature, du premier ministre ou du président de la République, parce qu'au moins là, ils savent amener leurs doléances, trouver des solutions à certaines questions qui sont la compétence de la province.
Une certaine proximité.
Il y a une proximité, une gestion de proximité.
Voilà.
Et donc, maintenant, on va calquer ce modèle-là au niveau le plus bas. Parce que la loi prévoit qu'il y aura une fonction publique locale, il y aura des affaires vraiment typiquement locales qui seront gérées.
Même au niveau de la commune.
Au niveau de la commune, nous avons un bourgmestre avec son gouvernement, deux échevins, les bourgmestres, bourgmestres adjoints, plus deux échevins, qui constituent déjà un gouvernement. Il y a le mécanisme de contrôle, comme ce qu'on voit ici au niveau de l'Assemblée nationale, le conseil communal qui va, qui peut faire une question orale, qui peut faire une motion. Donc le même exercice qu'on fait au niveau du pouvoir central est prévu au niveau le plus bas. Et
la population
assiste et participe.
Tout à fait.
Et surtout, le mode le plus important de la participation citoyenne au développement, c'est que la population sera appelée à contribuer à l'élaboration des plans de développement. C'est-à-dire chaque commune, chaque ville doit fonctionner avec son plan de développement. Et la population sera consultée directement pour...
Et les décisions sont prises au niveau local.
Voilà.
On n'a pas besoin des autorités...
Évidemment, sous réserve de compétences, parce qu'il y a des matières compliquées qui demandent que ce soit au niveau du pouvoir central, par exemple, la réglementation des prix, la police, la sécurité, la diplomatie, ça ce n'est pas au niveau local, ça c'est sûr. L'armée, certaines choses sont gérées par le pouvoir central. Mais il y a des affaires vraiment locales. On peut avoir une fonction publique, on aura une fonction publique au niveau local. On pourra créer des services publics locaux. On pourra organiser, par exemple, des marchés.
Il faut construire les marchés, construire des écoles, les ponts.
On récolte les taxes et tout ça, on construit des écoles.
Tout est géré au niveau local.
Tout, les services de pompes funèbres, les égouts, il y a vraiment un certain nombre de choses qui ne peuvent être gérées qu'au niveau local. Voilà. Et la population aura un droit de regard sur la façon dont les autorités locales s'y prennent pour développer leur commune. Je crois que c'est vraiment un avantage certain.
Mais il y a un problème, c'est aussi celui des moyens. Déjà, avec les gouvernements provinciaux qui envoyaient l'argent, la rétrocession pose toujours problème, ça marche pas. Alors, comment ces entités territoriales décentralisées vont se développer sans moyens?
Oui, mais ce sont les hommes qui créent les moyens. Ce ne sont pas les moyens qui créent les hommes. Vous voyez, notre pays, si nous venons de l'Ouest, parce que nous avons une mémoire courte, il y a peu, nous avions un budget de moins d'un milliard de dollars. On fonctionnait, et tous les ordinateurs disaient du monde, tous les ordinateurs du monde disaient que le pays n'existait pas. C'était impossible de fonctionner. Nous avons fonctionné pendant très longtemps avec un budget de moins d'un milliard de dollars. Mais le pays restait le même, même étendue, même ressources naturelles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie que nous pouvons commencer à parler de 9 milliards de dollars et avec des projections dans les années qui viennent vers 15 millions, milliards, etc. Et donc, ce sont les hommes qui créent les moyens. Et si nous organisons très bien les entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire si nous plaçons les hommes qu'il faut, eh bien, il y aura une émulation. Il y a les hommes qui vont créer des ressources, nous en avons beaucoup, des ressources qui vont permettre que nous ayons un budget plus costaud au niveau central, et au niveau local, il y a l'ordonnance-loi, il y a des ordonnances-loi qui fixent la nomenclature des taxes, des impôts à percevoir au niveau local et au niveau national. Eh bien, ne fût-ce que l'impôt minimum personnel, si chaque citoyen d'une commune peut payer $1 par an, vous voyez, déjà là-bas, nous avons des ressources. Si le bourgmestre a suffisamment d'initiatives, il fait construire un stade de football.
Mais il vous dira, mais où est-ce que je vais avoir l'argent pour créer tout
non,
ça?
Non, je vous dis, il y a de petites choses qu'on peut faire. Des stades, on aménage avec quelques moyens, et puis avec la coopération décentralisée, parce que ça aussi c'est tout un chapitre. Il y a des communes ou des villes qui peuvent faire des partenariats avec des villes à l'étranger et obtenir le financement de certains projets. Et ces projets peuvent être générateurs de revenus. Des revenus qui sont, s'ils sont bien gérés, vont impulser le développement.
Mais est-ce que le gouvernement central, il n'y a pas un mécanisme pour aider, soutenir ces entités territoriales?
C'est la caisse des péréquations. Dans la Constitution, ce qu'on appelle la Caisse nationale des péréquations.
D'accord.
Et je suis heureux d'avoir participé à l'élaboration de ce projet de loi.
D'accord. Je reviens à vous dans quelques instants, le temps d'accueillir les auditeurs. Maître Guilin Douga, il nous appelle de Kinshasa. Hadji Mahamouti est à Kindou. Vous voulez également participer, appelez au 081-890-6394.
C'est parce que Radio Capuine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. A vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Quelle est l'importance de la décentralisation? Maître Guilin Douga, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup pour la parole. N'est-ce pas? Je salue d'abord les auditeurs de la Radio Capi, également l'invité Maître Gilbert, tout en précisant, n'est-ce pas? Parce que le thème est tellement important. Je voulais préciser qu'il y a beaucoup d'approches en matière de la décentralisation, mais je ne saurais pas reprendre parce que votre invité est un technicien, n'est-ce pas, de la loi, mais je voulais un peu qu'il puisse expliciter encore davantage aux auditeurs. Est-ce que la République démocratique du Congo, elle, applique la décentralisation à l'état pur ou bien il y a une sorte d'hybridation? Parce que quand vous regardez au niveau de certaines entités, n'est-ce pas, il y a d'autres formes, donc, c'est-à-dire on se plonge de temps en temps dans la régionalisation, il y a des entités où on applique, n'est-ce pas, une décentralisation à l'état pur. Je voulais un peu qu'il soit un peu explicite à ce stade, parce que la décentralisation certainement a ses exigences, mais je voulais un peu l'entendre parler par rapport au caractère hybride, n'est-ce pas, de l'état que nous avons, la RDC.
Bien, merci. Hadji Mahamouti, vous êtes à Kindou, dans la province du Maniema. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, moi, ma question, je voulais poser à l'invité, quelles sont les conséquences, je ne sais pas s'il a déjà bien dû, hein, parce que je viens de suivre l'émission ici. Je voulais poser la question à l'invité de savoir quelles sont les conséquences de la décentralisation. Et comme nous sommes aussi au découpage de certaines provinces qui sont nouvellement créées, je voulais demander à notre invité quel serait maintenant l'essor de ces entités territoriales nouvellement créées. Est-ce que la décentralisation sera appliquée pour ces provinces qui sont nouvellement créées ou pas? C'était ça la question.
Bien, merci. Adrienne Amouyeti, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour, maître Gilbert. Premièrement, je remercie l'équipe de Radio Capi pour ce fabuleux sujet sur la décentralisation. Sur le sujet, vraiment, j'aime tant ce sujet parce que c'est pas la première fois de débattre sur ça. Moi, j'aimerais dire, j'aimerais d'abord donner ma contribution qui est signée, qui est la RDC, qui déclasse d'abord parmi les pays les plus corrompus du monde, si je peux dire, en oubliant les problèmes là des détournements, des dénis publics à grande échelle. Et les autorités locales aussi doivent avoir la capacité, la compréhension et des ressources pour mieux opérer les véritables et réelles mutations des délivrés et des fonctionnements des services de proximité et de ne pas ignorer les rôles de la société civile dans les développements, comme l'avait souligné un jour M. Hervé. Ma préoccupation et ma question, M. Jody, vous l'avez posée à maître Gilbert, mais je n'ai pas eu une très bonne réponse sur ça. C'est avec... La question, c'est juste pour les entités territoriales décentralisées. Peuvent-elles y arriver sans une bonne gouvernance? À quoi la décentralisation peut-elle développer la RDC? Et la dernière, j'aimerais savoir, avec des finances tourmentées ici chez nous en RDC, des pratiques de mauvaise gouvernance à accentuer, la RDC sera-t-elle réussie à développer ses entités territoriales décentralisées à travers la décentralisation actuelle? Merci, M. Jody Daniel.
Bien, bonne journée, Maître Gilbert, vous avez la parole.
Merci beaucoup, je suis très flatté par la pertinence des questions posées par les auditeurs, preuve que c'est vraiment un sujet important. Je voudrais revenir à mon confrère, Maître Guilla, qui parle de la décentralisation hybride. En réalité, notre Constitution a prévu, effectivement, ce qu'on appelle le régionalisme constitutionnel. C'est-à-dire, nous avons deux échelons du pouvoir. Il y a d'abord le rapport entre les provinces et le pouvoir central. À ce niveau-là, c'est le régionalisme, c'est pas la décentralisation. Les provinces et les pouvoirs centraux entretiennent ce qu'on appelle une sorte de relation de partenariat. Donc, il y a des compétences. La Constitution a fixé les compétences des unes et de l'autre. On a réparti les compétences que les provinces peuvent mettre en œuvre. Il y a des compétences qui sont du pouvoir central. Il y a évidemment des compétences concurrentes.
Lesquelles, par exemple?
Oui, pour ce qui concerne le pouvoir central,
La police, l'armée,
comme la monnaie.
La monnaie,
on ne peut pas demander à chaque province d'avoir sa monnaie, ça va de soi. La question comme la loi pénale, on ne peut pas demander à chaque province.
Si on a
le fédéralisme, évidemment, ça pouvait être possible. Oui. On ne peut pas demander à chaque province d'avoir ses cours et tribunaux et avoir sa propre loi. Ça, c'est vraiment la compétence du pouvoir central. La diplomatie. Comme nous ne sommes pas dans le fédéralisme, eh bien, c'est le pouvoir central qui a, dans ses attributions, la diplomatie du pays, la sécurité, la police. Donc, il y a un certain nombre de compétences, il y en a une énumération assez longue,
qui relève du pouvoir central.
Du pouvoir central.
Oui.
Mais il y a aussi des affaires provinciales, des compétences qui sont dévolues aux provinces.
Lesquelles, par exemple?
L'enseignement. L'agriculture.
La santé.
La santé. La protection civile. Il y en a plein. Il y a toute une énumération. Il faut lire la Constitution, l'article 202. Et il y a, par exemple, la coopération interprovinciale. Le plan d'aménagement de la province.
Les jumelages avec d'autres villes étrangères. Vous avez parlé de ça tout à l'heure.
Ouais. Donc, il y a un certain nombre de matières qui sont de la compétence. Et pour cela, il faudra toujours se référer à la loi. Par exemple, en matière énergétique, le courant. On a aboli le monopole de la SNEL. Aujourd'hui, il y a des quantités d'énergie qui sont de la compétence de la province. Donc la province peut aussi
distribuer le courant,
commercialiser le courant, mais d'une certaine quantité. La province peut créer ses entreprises publiques, ses services publics. La province, donc, il y a beaucoup de matières. Il faut chaque fois se référer à la Constitution pour savoir si telle matière relève de telle compétence. Alors, au niveau des entités territoriales décentralisées, parce que je reprends la question du confrère, c'est entre la province et les entités territoriales décentralisées que fonctionne la décentralisation au sens strict du terme. Donc, là, nous parlons des entités territoriales décentralisées. Parce que les provinces ne sont pas des entités territoriales décentralisées. On les appelle dans la Constitution des composantes politiques. Au sein des provinces fonctionnent, non pas des organes comme dans les entités territoriales décentralisées, mais des institutions politiques. Gouvernement,
oui,
et un organe exécutif et un organe législatif qu'on appelle assemblée, au même titre que l'Assemblée nationale.
Mais alors, quand on parle des ETD, de quoi s'agit-il à ce moment-là?
Entité territoriale décentralisée.
Oui, il s'agit de quoi?
La Constitution les a énumérées, c'est la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Voilà ce qu'on appelle entité territoriale décentralisée. Le territoire n'est pas une entité territoriale décentralisée. C'est une entité territoriale déconcentrée, qui est régie par une autre loi. Parce que nous avons voulu, dans la décentralisation, pour sauvegarder l'unité nationale, faire une sorte d'alliage entre la déconcentration et la décentralisation. Parce que le pouvoir central n'a pas d'autre territoire que l'ensemble du pays, l'ensemble des provinces, l'ensemble des entités territoriales décentralisées.
Mmh.
Il n'existe pas un territoire qu'on appelle pouvoir central et un autre qu'on appelle province. Donc,
on retient qu'une province n'est pas une ETD, une entité.
Non, c'est une composante politique.
Adji, de qui nous veut savoir quelles sont les conséquences de la décentralisation? C'est la question de M. Adji Mahamouti du Manima.
Les conséquences de la décentralisation sont multiples. Les conséquences positives, c'est que la décentralisation est utilisée comme un instrument de relance économique, un instrument de refondation de l'État. Avec la décentralisation, nous avons une gestion de proximité, une gestion qui permet à chaque
développement
de se développer et par conséquent, par ricochet, d'impulser le développement de toute la nation.
D'accord. Et il dit, quel est le sort des provinces nouvellement créées?
Bon, je n'aime pas beaucoup l'expression « province nouvellement créée ». Parce que les provinces sont créées par la Constitution. L'article 2 de la Constitution avait déjà énuméré les 25 provinces énumérées. Donc, déjà, notre Constitution que nous avons adoptée par référendum, c'est-à-dire c'est la volonté du peuple congolais tout entier, qui avait voulu que nous ayons la ville de Kinshasa, qui a le statut de province, et 25 provinces. Et donc, ce qu'on fait actuellement, c'est la mise en œuvre, c'est l'application de la Constitution. Et donc, on ne peut pas dire nouvellement créé. Alors, on a demandé en quoi...
Le sort, quel sera le sort de ces provinces
le sort des entités, de ces provinces...
Nouvellement créées, quoi. C'est ça la question des messieurs.
Oui, mais quel sort c'est que ces provinces...
Qui vont devenir, c'est, peut-être
sont appelées, sont appelées à fonctionner comme provinces. Et pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles soient dotées aussi d'institutions provinciales. Le gouvernement provincial et les assemblées provinciales.
Mais ça existe déjà.
Bon, disons, non, il n'y a pas encore le gouvernement provincial.
Bon, dans les autres provinces...
Dans les autres provinces,
pas dans les ça existe déjà.
Alors, leur sort, je ne sais pas qu'est-ce que l'auditeur veut dire. Parce que si nous sommes dans la mise en œuvre de la Constitution, il n'y a pas de sort. Peut-être on pouvait dire quel est le sort des anciennes provinces. Par exemple, quand vous prenez la province orientale, elle n'existe plus, elle a été démembrée en quatre provinces, Tchopo, Ituri, Bazuele, Otuele. Donc, l'appellation province orientale a disparu. Alors, vous pouvez peut-être demander quel est le sort de la province orientale.
Oui. Mais
demander quel est le sort des nouvelles provinces, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette
question.
D'accord.
On va accueillir deux autres auditeurs et vous allez répondre aux autres. Christian Mutombo, vous êtes à Kinshasa. Didier Kumonga, vous êtes à Kolwezi, dans le Lualaba.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Bien, quelle est l'importance de la décentralisation? Chris Mutombo, vous êtes à Kinshasa, hein? Bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les Okapiens qui nous suivent.
Oui.
Oui, selon cette thématique du jour, moi, ça, pour mon humble avis, je crois que nous ne pourrions pas, n'est-ce pas, diaboliser l'affaire. La décentralisation, c'est une loi que nous tous avons voté dans la Constitution qui doit être appliquée. Mais les problèmes se basent sur les applicants de cette loi-là. Alors, si aujourd'hui, toutes les provinces, toutes les 26 provinces aient leur autonomie, donc moi je ne vois pas ce qui est le mal. Donc l'exercice de l'affaire, c'est ce qui est plus important. Alors, souvent, selon les déclarations que nous suivons toujours, nous voulons toujours diaboliser le pouvoir central. Vous voyez, on n'a pas construit ça, les ponts, on n'a pas construit les écoles. Et si aujourd'hui, les initiatives de construction des écoles, des bureaux de l'État, au niveau même local, donc, dans ce qui concerne cette autonomie-là, moi, je ne vois pas ce que nous pourrions diaboliser, n'est-ce pas, cette affaire-là. Donc, moi, je suis d'accord de la décentralisation et sur aussi l'application de cette décentralisation, donc, dans cette affaire-là. Donc, voilà un peu cette suggestion que j'ai voulu remettre sur cette question.
Merci. Didier Kumonga de Colosi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité et aussi aux auditeurs qui suivent la radio au Capé aujourd'hui.
Quelle est votre préoccupation?
Ouais, c'est du pied Kunonga.
Kunonga.
À Colosi, donc dans les lois là-bas.
D'accord.
Oui, mon intervention, c'est d'abord, bon, c'est bien bon de le dire, comme monsieur l'invité, qui est vraiment un technicien en la matière, qui nous a donné la définition du terme de centralisation. Pour rentrer un peu en arrière, on avait, donc, au départ, 11 provinces. Les 11 provinces, déjà, était doté d'une sorte de décentralisation, mais qui n'est pas vraiment pure, comme on l'a dit là. Il y a fait rétrocession de 40%, tout ça, aux provinces pour essayer pour développer les provinces. Cela n'a pas été respecté dans la plupart des cas. Est-ce que je me demande, si aujourd'hui on parle de décentralisation, parce qu'il y a eu 21 nouvelles provinces, et je vous dis, il y a de quoi où, pour avoir un bureau de l'État, c'est tout un problème. Mais pourquoi l'État ne peut pas d'abord doter des moyens, d'abord, c'est-à-dire le gouvernement central, doter des moyens aux 21 provinces pour se développer, pour essayer de construire d'abord les infrastructures de base. Et aussi, la CENI continue avec ses calendriers à étouffer la formation des nouveaux gouvernements des 21 nouvelles provinces. Mais en soi, qu'est-ce que nous sommes en train de nous faire voir? C'est quoi au juste? Que votre invité essaie de nous expliciter au moins sur les départs, les décollages des nouvelles provinces. Si ça pose un problème, vraiment, ça aussi.
D'accord, merci. Revenons à Adrienne qui dit aujourd'hui on parle des entités territoriales décentralisées, mais comment voulez-vous réussir la décentralisation alors qu'il y a la mauvaise gouvernance? Ça c'est un problème dans notre pays, la mauvaise gouvernance, la corruption. Monsieur Gilbert, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Oui, moi je crois que le problème de gouvernance n'est pas lié seulement à la décentralisation. Le problème de gouvernance existe dans toutes les formes de l'État. Et aujourd'hui, si nous encourageons la mise en œuvre de la décentralisation, c'est, comme je l'ai dit, c'est pour encourager l'exercice de la démocratie à la base. Les mécanismes de contrôle qui sont prévus au niveau du pouvoir central seront exercés au niveau local. Donc, s'il y a problème de gouvernance, cette fois-ci, avec la gestion de proximité, le peuple pourra interpeller ses conseillers, au niveau de la commune, par exemple, parce que c'est l'entité la plus petite. Eh bien, au niveau de la commune, vous avez des conseillers que vous avez élus, qui sont dans votre quartier, dans votre commune. Vous avez un bourgmestre qui s'illustre par une mauvaise gouvernance. C'est plus facile de demander à vos conseillers de le défenestrer par une motion de censure, ou une motion de défiance contre un échevin, c'est plus facile que de le faire au niveau du pouvoir central, parce que vous êtes dans la commune, Kinshasa c'est plus loin. Mais les affaires de votre quartier, vous avez prévu par exemple dans votre plan de développement qu'il y aura un éclairage public dans votre commune, vous avez prévu qu'on doit jeter tel pont sur tel ruisseau.
On doit construire 5 écoles.
Et puis bon, il y a un marché par exemple, ou un parking public que vous avez créé, qui génère des recettes. Vous ne voyez pas clair dans la gestion de ces recettes-là. Mais c'est plus facile parce que c'est à proximité. Donc bref, le problème de gouvernance pourrait être résolu lorsqu'on rapproche les gouvernants des gouvernés avec la décentralisation. C'est donc un avantage certain. Mais il faudra trouver, comme je l'ai dit, des hommes qu'il faut. Il faut que tout le monde comprenne d'abord l'enjeu et que nous trouvions des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est pour cela, je profite de cette tribune pour le dire, que je voudrais quand même appeler les gens à ne pas prendre à la légère les élections locales. J'ai comme l'impression que les intellectuels congolais croient qu'il faut être député national, député provincial, et j'ai comme l'impression que lorsqu'on va recruter des candidats,
Beaucoup vont négliger.
On va vouloir envoyer les gens qui n'ont pas étudié, les gens qui ne peuvent rien comprendre, parce qu'on va penser que c'est une petite affaire. Or, en réalité, c'est là-bas que nous avons besoin des hommes solides. Nous avons besoin des hommes qui peuvent impulser le développement de la commune, le développement de la ville, pour que cela ait des répercussions positives sur toute la province et, par ricochet, sur tout le pays. Alors, on a posé aussi une autre question.
Didier de Colosie, bon, il y a Chris Mutombo qui a soutenu cette initiative, l'autonomie. Didier parle de la rétrocession, déjà, des 40% qui pose problème pour les 11 provinces existantes. Aujourd'hui, on a d'autres provinces, alors il dit qu'il fallait commencer par doter ces provinces de moyens pour se développer. Vous avez parlé tout à l'heure de la Caisse nationale de péréquation. Alors, dites-nous comment cela ça va se passer. Le problème des ressources, la question des ressources.
Tout à fait. Je crois que la décentralisation, comme on l'a toujours dit, c'est un processus. Il y a des défis, mais ce n'est pas parce qu'on rencontre ces défis-là à relever, ou ce que la CENI a pris l'habitude d'appeler les contraintes, qu'il faut arrêter. La question de la rétrocession a été soulevée dans beaucoup de forums, et parce qu'il y en a qui soutenaient que la Constitution parle de retenue à la source. Et d'autres ont dit, bon, on peut faire la rétrocession parce qu'il y a des questions techniques qui ont été analysées à des niveaux très hauts. Mais moi, je crois que l'essentiel, c'est de commencer. Donc, on ne peut pas, comme je l'ai toujours dit, la décentralisation, ce n'est pas un événement. Comme l'éclipse solaire, on se dit, aujourd'hui, il y aura éclipse solaire. C'est comme quelqu'un qui pourrait mettre au monde un enfant. Il doit prendre à marcher, il doit faire d'abord le premier pas. Un jour, il se lève, il tombe. Un autre jour, vous lui apprenez à se lever. Vous le tenez à la main, il marche un pas, deux pas. À un moment donné, vous serez surpris, la femme commence à courir. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit faire avec la décentralisation. Il faut d'abord la mettre en œuvre et résoudre, affronter les contraintes. Les contraintes comme ce qu'on a fait. Le pays ici, avant qu'il ne soit ce qu'il est, je crois que le colonisateur belge était venu, il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait pas de tous ces jolis bureaux que nous voyons. Et d'ailleurs, dans la capitale, je crois que celui qui a commencé ce pays à siéger sous un baobab, qui existe encore, et de là...
Donc les députés, dans les entités, là, ils peuvent encore siéger sous les baobabs.
Ils peuvent siéger sous les baobabs,
oui.
Ils réfléchissent sur le voie des moyens
pour trouver
de faire en sorte que progressivement,
trouver des moyens et construire
certains défis, on construise et tout.
Et alors, parlez-nous de la caisse de péréquation.
La caisse nationale de péréquation, c'est en fait un mécanisme de solidarité nationale. Vous savez qu'il y a, des provinces, il y a des entités territoriales décentralisées qui risqueront de paraître moins favorisées
par rapport
aux autres.
Oui.
Sur le plan économique, il risque d'y avoir un développement du pays à deux vitesses. Alors on a pensé à la Caisse nationale de péréquation qui pourrait prendre 10% de toutes les recettes à caractère national, les caser dans une sorte d'établissement public, où les entités territoriales décentralisées et les provinces pourront amener des projets d'investissement.
Et on va voir des financements,
pour voir quels projets on peut financer pour corriger le déséquilibre entre telle entité territoriale décentralisée et telle autre, ou telle province et telle autre.
D'accord. Bien, merci M. Gilbert Kiatingé Kakoulé, spécialiste en décentralisation. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous en parler. On aura d'autres occasions. Vous allez y revenir certainement pour nous en dire un peu plus. Merci et bonne journée.
Oh, c'est fini déjà. Merci.
Oui, déjà.
Merci. Au Capi Service.